Et dans La France bouge, Raphaël Duchemin, on retrouve Elisabeth Assayag pour la solution du jour.
Vous êtes peut-être en train de nous écouter, vous êtes lycéen, vous n'aimez pas les mathématiques. Elisabeth, il existe une solution grâce à une start-up française, ça s'appelle Numworks.
Oui, c'est une calculatrice. Vous savez, la calculatrice, c'est un appareil qui n'a pas beaucoup évolué. Si je vous dis Casio, Texas Instruments,
je vois bien.
Ça vous dit quelque chose,
c'est d'années de torture pour moi.
Et voilà, et bien Numworks existe. Ça existe depuis deux ans. Et Numworks a donné un coup de jeune à la calculatrice. Une calculatrice nouvelle génération que l'on peut voir là en direct sur europe1.fr.
Elle reprend... Après, je vais m'en servir.
Raphaël va faire ses calculs. Elle reprend les codes des smartphones. On y voit des courbes, des fonctions et pas les abréviations un peu barbares. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était beaucoup plus jeune, on voyait ces abréviations, on n'y comprenait pas grand-chose. Là, c'est totalement intuitif. Il y a aussi une application Python qui est un langage de développement des codeurs. Donc, elle est totalement au goût du jour. Et plutôt que de se poser des questions, de problèmes, par exemple, quel est le temps de moyen de remplissage d'une baignoire, etc., Numworks accompagne les lycéens et leur permet de comprendre comment fonctionne, tiens, la géolocalisation par exemple, des petites choses du quotidien, du raisonnement mathématique. Bonjour Romain Goyer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Je vous en prie.
Vous êtes le fondateur de Numworks et
tout à
on
fait.
Peut dire que vous avez réinventé la calculatrice.
Je pense qu'on peut le dire d'une certaine façon.
De quelle manière ?
Bien en fait, nos concurrents, donc vous les avez cités, Casio et Texas Instruments, avaient fait un travail vraiment formidable dans les années 90, parce qu'en fait ils avaient inventé le concept de la calculatrice, et notamment de la calculatrice graphique. Donc graphique, c'est-à-dire qu'elle peut tracer des courbes et faire des fonctions assez avancées. Le problème, c'est que depuis, ils se sont un petit peu endormis sur leur laurier.
La fameuse FX7000G.
Alors oui, tout à fait. Il y a effectivement eu plein de modèles.
Moi, pendant ce temps, je ne comprends rien, mais tout va bien.
Et en fait, le problème, c'est que depuis, ils n'ont pas tellement revu leur copie. Et à l'époque, ils avaient des contraintes techniques très, très dures. Et donc, par exemple, ils étaient obligés d'abréger les mots. Donc, par exemple, au lieu de dire « fonction », il y a marqué « fun ». Alors « fun », ben, ce n'est pas très évident pour un lycéen aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on est reparti de la feuille blanche. On a réinventé cet appareil-là avec les technologies de 2019. On s'est inspiré de tous les objets qui font partie du quotidien des élèves. Par exemple, les consoles de jeux, les smartphones pour lesquels les élèves n'ont pas besoin de manuel. Ils savent s'en servir de façon intuitive. Nous, on a dupliqué ce comportement-là sur un objet scolaire, la calculatrice graphique.
Et donc, vous pensez au lycée tel qu'il est aujourd'hui pour concevoir l'interface de votre calculatrice.
Alors, effectivement, on travaille tous les jours avec des professeurs, des élèves. On a une approche itérative, on essaye plein de choses, certaines qu'on garde, certaines qu'on annule. Une anecdote que j'aime bien, au tout début, quand on réfléchissait à la couleur de l'appareil, en fait, on a fait des tests appareil éteint. On a mis deux calculatrices qui avaient la même forme, une noire et une blanche. Et on a interviewé des lycéens, on leur a dit « bon, qu'est-ce que vous pensez de cet appareil ?» Et l'avis a été unanime, je dirais que 80% des élèves ont dit « ah, blanc, c'est plus facile ». Alors, ne me demandez pas pourquoi. Mais du coup, maintenant, la calculatrice Numworks est toute blanche et elle fait moins peur aux élèves.
C'est pour ça que j'étais mauvaise en maths, c'est parce que la mienne était noire.
Alors, ça fait un an que vous êtes entrée vraiment sur ce marché.
Tout à fait.
Comment s'est passée là, cette rentrée ?
Eh ben, c'est un petit peu tôt pour
vous le dire.
Oui, c'est
encore tôt, mais...
Nous, on a la chance d'avoir, je pense, une bienveillance de la part des professeurs qui se sont dit, tiens, c'est une décision lourde de responsabilité pour un professeur de recommander un nouvel entrant. C'est pas facile. Il engage un petit peu sa responsabilité.
Il coûte cher.
Tout à fait. Et du coup, et puis aussi, c'est faire un choix pour toute une année, à minima, avoir une scolarité de lycée entière pour les élèves.
Elle coûte combien, cette calculatrice?
En réalité, elle n'est pas si chère que ça. Elle coûte 80 euros, ce qui est moins cher que tous les produits concurrents.
Elle est française, elle est fabriquée
française,
en France.
Tout à fait. Alors, elle est intégralement conçue en France. Toute l'équipe de recherche et développement est basée à Paris.
La coach, Sandra.
Alors, en tout cas, moi, je dis bravo parce que avoir été un peu validé, cautionné par l'éducation nationale, c'est ce que vous dites.
C'est un grand pas, oui.
Ça, c'est un grand pas parce que vous ne pouvez pas lancer un produit comme ça sans être cautionné. La question, c'est est-ce que vous faites partie des fournitures scolaires, des listes de courses de la rentrée en disant il faut acheter cette calculette, parce que je me rappelle qu'on avait quand même une marque et un modèle à acheter quand on était jeune. Donc, la première question, c'est est-ce que vous faites partie de la liste de courses? Et puis, je trouve que le prix est très bien aussi. Hein. Là, on n'a pas de sujet. Et puis, votre cible, c'est plutôt les premières terminales ou c'est plutôt...
Nous, c'est un appareil en fait, qui est utilisé pendant tout le lycée. Donc, tant qu'à faire, il vaut mieux l'acheter en seconde. Comme ça, on s'en sert pendant tout le cursus. Et pour répondre à votre première question, en fait, la liste de fournitures, elle n'est pas du tout faite au niveau national. Elle est faite par établissement, voire parfois par professeur. Donc, en fait, nous, l'enjeu pour nous, c'est de convaincre les professeurs de la pertinence de notre appareil.
Et vous allez les voir un par un ou établissement par établissement? Parce qu'il n'y a plus qu'à en travailler avec l'éducation nationale, ce n'est pas si simple que ça.
Effectivement, nous allons à la rencontre de tous les professeurs qui souhaitent nous rencontrer.
Elisabeth ?
Là, c'est il y a la rentrée, il y a le programme des classes de seconde qui a évolué, qui propose une nouvelle matière obligatoire, hein, les SNT, les sciences numériques et technologies. Et là aussi, cette nouvelle matière est intégrée dans votre calculatrice.
Tout à fait. En fait, ça, c'est une nouvelle matière qui fait son entrée au lycée cette année, qui est une matière très intéressante, en fait, qui vise à donner un petit peu du contexte scientifique aux élèves, à leur expliquer pourquoi les mathématiques sont vraiment
du
utiles dans la
concret.
Vie.
Contexte concret.
Exactement. Donc, on va, par exemple, expliquer à un élève de seconde comment fonctionne un GPS. Un GPS, en fait, c'est un appareil magique qui vous dit où vous êtes sur une carte. Le fonctionnement derrière est assez compliqué. Et donc, nous, on accompagne les élèves.
Tout ça, c'est
avec
dans votre
des
calculatrice.
Activités, exactement.
Elle s'appelle Numework. C'est la solution aujourd'hui. Merci, Romain, d'être venu nous la présenter. On reste ensemble. La France bouge continue.
Il est midi 57.
Europe 1.
On va vous retrouver dans 10 minutes. Quel objet du quotidien vous aimeriez révolutionner ? La cafetière, le sèche-cheveux, la lampe de chevet ? À vous de nous le dire. Quelle trouvaille serait utile ? On vous attend 3921 et Twitter.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge, deuxième partie. On va vous inviter à la maison aujourd'hui. Venez, vous êtes les bienvenus. On va vous emmener dans chacune des pièces parce que se tient en ce moment le salon maison et objets. Et des objets, justement, nous, on en a trouvé qui ont su faire leur révolution. Nous sommes toujours avec Elisabeth Assayag, qui m'accompagne lors de cette émission. Céline Dacosta est là aussi.
Je suis là.
Le 39-21 marche toujours.
Ça fonctionne très bien, 50 centimes
Twitter
la minute.
Twitter également.
@ Europe 1, on vous attend.
Et puis notre coach, Sandra Legrand, cofondatrice de Yapuka et conférencière également. Merci Sandra d'être avec nous. C'est une première aujourd'hui. Face à nous, il y a Guillaume Roland, direction La Chambre avec vous. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Vous êtes le créateur de Sensor Wake, c'est le réveil olfactif. Alors, j'ai envie de dire que vous êtes quand même un inventeur né, parce qu'à 13 ans, je crois, du côté de chez vous, dans la région de Nantes, vous avez déposé votre tout premier brevet.
C'est ça.
13 ans.
Au collège.
Qu'est-ce que vous aviez inventé ?
Alors à l'époque, c'était un infuseur à thé qui permettait, c'était pour ma maman, qui était une amatrice de thé, de consommer son thé avec un sachet qui pouvait être remué et ensuite essoré en fonction du thé et de la chaleur de la tasse.
Et puis bon, comme c'est votre hobby, on va le dire, hein, d'inventer, vous continuez et à un moment vous vient l'idée du réveil olfactif. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour vous dire « j'ai envie d'un réveil un peu différent » ?
C'était il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Donc c'est également un prototype qui est né dans le garage, comme l'infuseur à thé.
Décidément.
Pour se réveiller en douceur. Et notamment avec le parfum. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses autour de la lumière, du son bien entendu. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas utiliser un sens qu'on utilise peu dans la technologie, qui est celui du parfum, de l'odorat, et donc le sens olfactif.
Parce que vous aviez du mal à vous réveiller, la sonnerie vous agressait l'oreille.
Alors, je pense que je suis un des nombreux Français qui a du mal à se réveiller le matin, et avant d'aller au lycée, parce que le produit est né juste avant mon bac, avant de passer le bac. Et donc je m'étais dit, en effet, pour se réveiller plus tôt et en douceur, comment faire, comment pouvoir innover sur cette partie de la journée qui est quand même assez difficile à vivre.
Donc, au lieu de faire appel à nos oreilles, vous vous êtes dit, on va mettre tous les sens en éveil, notamment le sens olfactif.
Exactement. Donc, en fait, c'est assez simple. Hein. Le matin, on va avoir le parfum qui est diffusé, accompagné d'une lumière et d'une mélodie. Donc, on stimule tous les sens pour se réveiller en douceur. Et le parfum peut être choisi grâce à une capsule qu'on met dans le réveil.
Vous nous montrez ?
Ouais. C'est très simple. Là, je vous ai apporté le best-seller chez nous. Depuis la commercialisation du Sensor Wake depuis 3 ans, on vend le plus de la menthe. Donc, c'est quelque chose d'assez frais.
Menthe, en plus, il y a un clin d'œil parce que c'est avec ça que vous avez démarré la menthe.
Exactement.
Dans le jardin de vos parents.
Oui, c'était la première. En fait, c'était encore au lycée. Je faisais ça dans les labos de mon lycée. J'avais pris des feuilles de menthe de mon jardin de ma maman et avec l'hydrodistillation. En fait, on prend l'huile essentielle d'une feuille de menthe. J'avais créé les premières huiles essentielles de menthe pour la première capsule de Sensor Wake. Et donc, celle-ci est une menthe poivrée, donc assez fraîche, qui va être diffusée de manière sèche. Donc, on n'a pas de liquide, on ne chauffe pas.
Ça sent très bon.
Je suis content de le savoir. Et ce parfum-là donc, va être accompagné ensuite d'une lumière et d'une mélodie pour stimuler vos sens et vous faire vivre un réveil agréable et vous faire commencer la journée de bon pied.
Et alors, vous avez été sélectionné à l'époque hein, pour aller dans la Silicon Valley.
Exactement, chez Google, donc chez géant du web, pour un concours d'innovation qui s'appelle le Google Science Fair. Chaque année, 15 projets innovants sont sélectionnés. J'ai eu la chance d'être le premier Français de cette section-là. Et ensuite, Google a accompagné le projet sur tout un tas de choses. Quand on a 18 ans, on ne connaît pas grand-chose. Donc sur le marketing, sur le digital, comment créer un site web, comment vendre dans différents pays, comment mettre le produit sur le marché, parce que c'est ça aussi la finalité d'un projet. Et ça m'a permis de monter ma start-up.
Sandra, ça vous inspire ?
Alors moi, j'admire les inventeurs, donc déjà bravo. J'ai quand même une question, moi qui ai peu d'odorat. Ou est-ce qu'il faut avoir un odorat très développé ? Parce que j'ai un peu de mal à imaginer. J'imagine que vous l'avez testé parmi beaucoup
Je suis à distance, ça sent
très bon. Oui, mais est-ce que ça réveille ? Est-ce que ça réveille ?
En fait, pour vous rassurer, hein, on stimule tous les sens. Donc aussi bien le parfum que la lumière, que la mélodie. On cherche vraiment une expérience, on pourrait dire crescendo. C'est-à-dire, on va commencer à stimuler... votre odorat, ensuite on passe à la lumière, ensuite à la mélodie, pour vous faire une expérience 360.
C'est 360, d'accord.
Ce qui est important pour n'importe quel type de personne qui va avoir un odorat plus ou moins développé et pour que tous nos consommateurs soient...
La mélodie est choisie ?
Oui, on peut choisir sa mélodie.
C'est quoi, ce sont des oiseaux ?
C'est des douces mélodies qu'on a programmées et tout ça, ça se choisit de manière très simple. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi... d'utiliser le téléphone pour programmer ça, mais simplement sur des boutons tactiles sur le produit.
À l'ancienne.
Alors justement, pour ne pas avoir de, notamment Bluetooth dans la chambre, on veut que notre chambre soit un peu comme un sanctuaire, c'est-à-dire quelque chose de, où on se sent bien, et ça nous paraissait légitime de pouvoir l'utiliser de manière simple, sans avoir le téléphone.
L'entreprise s'est créée en 2015, vous avez lancé avec des précommandes, hein, c'est ça ?
Exactement.
On se demande pourquoi finalement aujourd'hui vous avez décidé de travailler avec Berger. C'est Berger qui vous a racheté, qui est un des leaders effectivement quand on parle de parfums d'intérieur. C'était une évidence pour vous ?
Alors là, en effet, on a annoncé une bonne nouvelle. C'est qu'en mars dernier, donc le groupe Maison Berger Paris, qui est un acteur important dans le parfum intérieur, plus de 120 ans, donc nous, start-up de 4 ans.
On l'a reçu ici même à Europe 1.
Olivier Simon, son président, était là il y a un an. De pouvoir intégrer un groupe avec un savoir-faire plus que centenaire et une marque connue du grand public un peu partout dans le monde, parce qu'on est présent dans 7000 points de vente. Pour nous, jeunes start-up, c'était une opportunité de pouvoir continuer à développer des innovations autour du parfum intérieur et ne surtout pas s'arrêter à Sansorec, qui est qu'un début. Et donc pour aussi une jeune start-up, de pouvoir emprunter et travailler avec des grands parfumeurs. On a une parfumeuse en interne. Et surtout avec un savoir-faire à la fois de production, parce que nos usines basées en Normandie sont en propre, et également une marque qui rayonne un peu partout dans le monde.
On va rester dans la chambre, Elisabeth, et toujours dans le sommeil ou le réveil. Hein. Mm-hmm. Vous avez trouvé une lampe de chevet adaptée, elle, aux personnes âgées.
Oui, tout à fait. Une lampe de chevet adaptée aux personnes âgées qui s'appelle Lumayana. Elle apporte l'autonomie, le confort, la sécurité. Ce sont des éclairages multi-adaptables aux déplacements pendant la nuit, hein, de ces personnes âgées. Par exemple, quand elles ont envie de lire aussi, elles s'adaptent. Et puis dans cette lampe de chevet, il y a aussi des rangements qui permettent de tout avoir à portée de main. Elle a été créée par Florence Mathieu, une designer.
On reste ensemble et on continue la visite de la maison innovante aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19. Le salon Maison et Objets se déroule en ce moment au parc des expositions de Villepinte. Et à cette occasion, dans La France bouge, on parle des innovations pour la maison, des nouveautés, des dernières tendances. Dites-nous de quelles innovations vous avez envie chez vous. Dites-nous tout sur Twitter, @Europe1. Appelez-nous également au 3921.
Et vous allez voir que de l'innovation, Céline, il y en a partout aujourd'hui dans nos maisons. Et c'est vrai aussi dans la salle de bain. Bonjour Chloé Schulzinger, je vais y arriver.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de Kerhaus. Votre start-up a été créée en 2018. C'est une filiale française aujourd'hui du groupe Barracoda. Et vous avez inventé un miroir connecté. J'ai d'abord envie de vous demander comment vous est venue cette idée.
Alors, en réalité, donc, Kerhaus s'appelle
Kerhaus.
Care pour le care, le soin, et OS comme système d'exploitation. On connaît tous iOS.
Oui.
Et donc l'idée en fait c'était de faire un logiciel qui connecte ensemble les objets et les services liés à l'univers de la salle de bain pour permettre à chacun de mieux suivre ses paramètres, beauté, santé, bien-être au quotidien. C'est vraiment améliorer la routine du quotidien pour une meilleure prévention au long terme.
Et alors vous vouliez interagir avec les objets qu'on trouve dans la salle de bain ?
Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'explosion des objets connectés, qu'on le veuille ou non, on a de plus en plus d'objets liés au bien-être, donc que ce soit les balances connectées, les brosses à dents connectées, comme on a dans le groupe Barracoda, Colibri, avec le partenariat avec Colgate, etc. Il y a des balances, il y a des bracelets connectés avec lesquels on va courir, enfin on suit souvent de très près sa santé, son bien-être.
Et on le voit hein, si vous nous suivez, vous, sur Europe1.fr, en ce moment, sur notre écran.
Absolument. Et donc, en fait, avec chacun de ces objets fonctionne avec une application isolée. Donc, quand on utilise cet objet, il faut se créer un compte, se connecter et faire le suivi. Et on se rend compte quand même que même les plus geeks d'entre nous, au bout d'un moment, arrêtent. Donc, nous, on s'est dit, il faut unifier tout ça en un seul endroit. Et quel meilleur endroit que la salle de bain pour suivre ses paramètres de beauté, santé, bien-être. Et une fois qu'on était dans la salle de bain, on s'est dit, mais le miroir, c'est quand même le meilleur moyen de vivre tout ça.
Donc, à l'intérieur du miroir, il y a un logiciel. On fait comment ? On le paramètre ? Je rentre par exemple mon poids, mes problèmes, je ne sais pas, dentaires, de peau.
Alors, en fait, le miroir vous reconnaît. Il fonctionne avec la reconnaissance faciale. Donc, quand vous passez devant, il reconnaît qui vous êtes.
Mais il faut d'abord que je l'ai programmé.
Et vous entrez dans votre profil. Absolument. Il y a une petite rencontre qui se fait. Mais ensuite, vous rentrez dans votre profil qui contient tous les objets et services que vous utilisez. Donc, par objet ou service, on entend balance, brosse à dents, etc. Mais service, ça peut être aussi des choses un peu fun, comme les tutos maquillage, etc. Voilà, donc là, on voit la vidéo qui montre toute l'étendue de ce qu'on peut faire. Mm-hmm. On a en fait la reconnaissance d'objets qui permet, par exemple, de scanner un produit et d'avoir un tuto correspondant qui apparaît. Donc ça, ça peut servir de manière ludique pour le maquillage, mais ça peut servir aussi pour plein de choses très... pratique pour apprendre des bons gestes au quotidien.
Vous me voyez arriver, toutes ces données, elles sont stockées, en local, donc elles sont protégées.
Absolument. Donc, on est absolument conscient qu'on a créé un miroir avec une caméra dans une salle de bain. Donc, bien avant que le RGPD arrive, on a pensé au fait qu'il y avait un petit sujet sur la sécurité des données dans la salle de bain. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'on l'a vu à un moment, on a créé un cache manuel de la caméra. Pour nous, il était très important de pouvoir dire, de la même manière qu'on met un post-it sur sa caméra d'ordinateur, ça peut arriver, on veut cacher manuellement cette caméra. Mais toutes les données sont stockées en local.
Sandra ?
Alors, j'ai compris que ce n'était pas la question miroir, qui est la plus belle. Mais très clairement, est-ce que demain, vous allez faire, une fois qu'on s'est vu et qu'on a, vous avez un problème de peau, vous avez les traits tirés, etc. Oui. Est-ce que vous faites des recommandations ?
Absolument.
Et est-ce qu'on peut avoir des partenariats avec des marques en disant, tiens, là, il vaudrait mieux que tu aies la crème L'Oréal ou les anti-cernes Guerlain. Enfin, je ne sais pas, est-ce que demain, il y a un business model là-dessus ? Est-ce que vous pouvez le faire et est-ce que c'est souhaitable ?
Alors, il y a deux sujets là-dedans. Effectivement, la recommandation, c'est clé pour nous. Mm-hmm. Donc, le fait de pouvoir avoir ce suivi au quotidien qui se fait sans qu'on ait besoin de le faire nous-mêmes, je veux dire utilisateurs, c'est très, très précieux. C'est ce qui permet de connaître nos habitudes et donc de recommander les produits qui vont bien. Ensuite, en ce qui concerne les marques, on a un volet du produit qui est vraiment beaucoup plus B2B et qu'on retrouvera peut-être dans le retail, peut-être dans l'hôtellerie, peut-être dans les salons de coiffure.
Alors justement, vous en parlez des salons de coiffure parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se nouer. Hein, justement, pour les coupes de cheveux, pour se voir avant, c'est quelque chose qui est d'ores et déjà développé.
Alors, on s'est lancé au CES en 2018.
Oui.
Et en 2019, on a eu la chance d'y retourner, d'avoir un Innovation Award et d'annoncer notre premier partenariat avec les salons de coiffure Vela. Donc là, on a montré une expérience vraiment utilisateur en salon de coiffure, donc dédiée à ça, donc qui est vraiment à distinguer de notre expérience maison.
C'est-à-dire qu'on peut voir la coupe de cheveux qu'on a envie d'avoir.
Absolument. On a réinventé le parcours du client en salon de coiffure, c'est-à-dire du début de la session avec un vrai diagnostic, en pouvant choisir sa couleur, sa coupe, en visualisant au maximum le résultat final avant de passer à l'acte.
C'est génial, les mauvaises surprises.
Voilà.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé d'autres innovations dans notre salle de bain, 100% française.
Et 100% française avec Ilia. Ilia, c'est une entreprise toulousaine qui, depuis un an, développe des solutions pour réduire l'impact environnemental de nos gestes quotidiens dans la salle de bain. Et quand on dit impact environnemental dans la salle de bain, on pense à la douche. Ilia a créé une douche cyclique qui permet d'utiliser seulement 5 à 10 litres d'eau par douche au lieu des 60 à 80 litres que l'on utilise dans une douche classique. Vous avez aussi Herbie, une entreprise implantée en Eure-et-Loire que l'on connaît bien.
Qu'on a reçue au tout début de la France Bouge l'année dernière.
Oui, parce qu'eux ont décidé de relancer Tancarville, Tankerville, ce sont des fabricants de séchoirs à linge. L'enseigne a donc lancé des séchoirs nouvelle génération, plus fonctionnels, avec pourvu de paniers à linge intégrés, de pinces à linge, de crochets porte-chaussettes, de supports pour les cintres. Tout ça, c'est français. Et ce sont ces petites innovations pour la salle de bain ou autre. Hein, le séchoir à linge, on peut le mettre ailleurs, évidemment.
On reste ensemble et on continue à faire le tour du propriétaire. Il est 13h28. Et si on passait par la cuisine, vous aussi vous vous demandez parfois dans quelle poubelle jeter, et bien demain, elle va peut-être trier toute seule nos déchets. À tout de suite. La France bouge, c'est jusqu'à 14h. On parle des innovations pour la maison, de toutes ces inventions qui peuvent vous faciliter la vie. Dites-nous ce que vous aimeriez avoir chez vous sur Twitter, @Europe1. Appelez-nous également au 3921, c'est 50 centimes la minute, Raphaël.
Il nous est tous arrivé de nous demander si ce qu'on tenait à la main allait dans la poubelle classique ou alors dans la poubelle jaune, à moins que ça ne soit la verte. Bref, on a parfois quelques hésitations devant nos déchets et notre bonne conscience n'est pas toujours suffisante pour avoir le bon geste. Bonjour Clément Castelli.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de User et vous commercialisez Eugène, un boîtier connecté qui trie nos déchets. Eugène, c'est, je suppose, pour Eugène Poubelle.
Exactement.
Alors, racontez-moi comment ce boîtier vous est venu à l'idée.
C'est parti d'un constat, à mon avis, qu'on peut tous faire au jour le jour. C'est que trier, ce n'est pas forcément toujours facile. Tout le monde ne le fait pas bien. En France, il n'y a finalement que 25% des gens qui le font systématiquement et correctement, c'est-à-dire sans erreur au quotidien. Donc encore beaucoup de progrès à faire. Et c'est de ce constat-là qu'est née l'idée d'Eugène.
Alors comment est-ce qu'il fonctionne ce boîtier? Il trie en scannant les articles comme au magasin?
Alors, le geste de tri, c'est vous qui continuez à le faire. Le boîtier vous indique juste comment bien le faire, c'est-à-dire dans quel bac il faut mettre quel composant de l'emballage.
On le voit sur europe1.fr hein, pendant ce temps.
D'accord. L'idée, en fait, c'est juste de scanner le code barre qui est sur votre emballage, comme à la caisse. Et le boîtier, donc, il y a un petit écran qui affiche la consigne de tri. Donc, qu'est-ce qui va dans, le tout venant? Et qu'est-ce qui va dans le bac jaune ou qu'est-ce qui va dans le bac vert?
Donc, on passe le déchet devant et il affiche la couleur de la poubelle dans laquelle il faut mettre le déchet.
Oui, tout à fait. Et s'il y a des composants qui vont dans le tout venant et d'autres dans le bac jaune, on fait la distinction.
Au départ, je crois que vous vouliez faire une poubelle intelligente à la maison. C'était quoi? Trop cher? Trop compliqué à réaliser?
En fait, au départ, c'est vrai qu'on voulait faire une poubelle parce que les freins au tri en France, c'est le manque de motivation, le manque d'information et le manque d'outils appropriés dans la cuisine. On se demande encore aujourd'hui pourquoi toutes nos poubelles ont un seul compartiment. Alors, on a voulu répondre à tous ces enjeux-là avec un seul produit. C'était peut-être un peu ambitieux, notamment d'un point de vue industriel, où fabriquer une poubelle, c'est un gros objet, c'est lourd, ça nécessite des gros investissements et ce n'est pas notre spécialité. Donc, après un an et une campagne réussie sur KissKissBankBank, on a décidé de pivoter, comme on dit dans le monde des startups, pour se recentrer sur notre cœur de métier, qui est l'électronique et le digital.
Et ça marche, hein, parce que vous avez présenté Eugène, vous aussi, au CES de Vegas en 2017. Depuis, vous avez vendu quoi? 2000 boîtiers?
C'est ça, on a 2000 utilisateurs du boîtier, un peu plus de 20 000 de l'application. L'application, qui est gratuite, permet également de scanner ses produits sans avoir le boîtier. Le boîtier, c'est finalement quelque chose qui permet de faciliter l'usage au quotidien et puis de le rendre disponible à tout le monde dans le foyer, notamment ceux qui n'ont pas de smartphone et les enfants. Donc, c'est un très bon outil pédagogique. Et voilà. Ouais.
Vos boîtiers, ils sont aussi sur des conteneurs à Nice, je crois?
Exactement, parce qu'en fait, Eugène, c'est surtout une vitrine pour nous. Notre modèle économique, il est surtout avec les collectivités locales, qui sont finalement celles qui pâtissent les premières des erreurs de tri. On a été sollicité pour finalement développer une offre sur les conteneurs en ville. Et là, l'idée, c'est de pouvoir déconsigner les emballages qu'on ramène sur ces conteneurs de tri en les scannant. Et pour chaque scan, on reverse un centime au Resto du Cœur.
Sandra, notre coach.
Alors moi, je trouve ça très bien parce que je pense qu'il faut innover vraiment dans cette matière tri. Hein. Il faut que tous qu'on soit des citoyens modèles. En revanche, vous avez aujourd'hui ce boîtier, d'accord ? L'appli, je pense que c'est encore mieux parce que c'est plus dans la poche et on s'en sert beaucoup plus. Mais j'ai lu que vous donniez des récompenses parce qu'en fait, on voit bien que les gens font les choses, pas forcément par un côté « je veux être citoyen parfait », mais plutôt souvent parce qu'il y a des motivations financières ou autres. Donc, il y a des points que vous attribuez.
Oui.
Donc, il y a des récompenses. Et qui paye ces récompenses pour pouvoir d'abord inciter un peu, puis après que ça devienne systématique?
Alors, ça dépend en fait, typiquement à Nice, sur les conteneurs de tri, c'est la collectivité. Qui a noué un partenariat avec les Restos du Cœur et donc qui finance ce système de récompense, c'est plutôt ce système de récompense solidaire. Pour les boîtiers dans la cuisine, C'est aujourd'hui nous qui finançons ces récompenses. Notre vision à terme, c'est que aujourd'hui, les grands industriels, que ce soit les Danone, les Nestlé, etc., ont des enjeux en termes d'image et en termes d'impact énormes sur la collecte et le recyclage de leurs emballages. Et c'est à eux, finalement, d'incentiver les utilisateurs au bon tri.
Absolument.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé là aussi, dans la cuisine, des entreprises françaises qui se bougent.
Eh oui, Au Boulot, vous connaissez ?
Oui.
C'est une, eh ben, tant mieux, alors, c'est une gamme de meubles de cuisine en kit, de cuisine qui sont 100% éco-conçus en bois d'arbre de France. Donc ce sont des gammes de meubles français. Les caissons de ces cuisines sont en bois massif et tous les composants en bois aussi qui les constituent. Les panneaux des caissons sont fabriqués localement, ils sont montés avec des colles blanches, les façades aussi. Bref, c'est 100% français, ça s'appelle Au Boulot. Et vous avez aussi la fameuse carafe d'eau, vous savez, la carafe d'eau que l'on avait dans les cantines lorsque nous étions beaucoup, beaucoup plus jeunes. Et bien là aussi, la carafe 100% française, elle est produite à La Roche-en-Brenil dans le Morvan et elle est fabriquée sans bisphénol A. Donc il faut se remettre à la carafe.
Exactement. On reste ensemble et on va continuer à inspecter la maison et à regarder ce qu'il y a de nouveau.
Il est 13h36.
Europe 1.
Et on vous attend, 3921 et Twitter. Quelles innovations voudriez-vous voir dans votre maison ? À vous de nous le dire. C'est Twitter et c'est La France qui bouge. À tout de suite.
Aujourd'hui, dans La France bouge, on parle des innovations pour la maison, Raphaël Duchemin.
Nous sommes avec Guillaume Roland, créateur du réveil olfactif Sensorway, commercialisé désormais par la maison Berger Paris. Avec Chloé Schulzinger, cofondatrice de CareOS Artemis, start-up créée en 2018, filiale du groupe français Barracoda, qui commercialise donc un miroir connecté. Et puis Clément Castelli, cofondateur et président de User, qui commercialise lui Eugène, un boîtier connecté pour trier nos déchets. Toujours avec nous, notre coach Sandra Legrand de Yapuka et conférencière également, évidemment à vos côtés Elisabeth Assayag qui nous dit tout de nos innovations. Je voudrais qu'on aille dans la rue, tiens, voir ce que vous attendez comme innovation dans la maison.
Bonjour, je m'appelle Gaston, j'ai 50 ans. Mon objet favori dans les nouvelles technologies, c'est une radio connectée et qui me permet de recevoir toutes les radios du monde. L'inconvénient de ce genre de radio, c'est que, étant connectée, elle dépend complètement de la box. Donc s'il y a une panne de box, et hélas, ça arrive, il n'y a plus de radio. Bientôt, peut-être que la radio pourra, en fonction de notre humeur du jour, nous proposer tel ou tel sujet que l'on pourra écouter pendant qu'on prend son café, se prépare, et ainsi mourir moins bête.
On a pris bonne note et on va s'y atteler, évidemment. Vous pourriez faire ça, Guillaume, dans votre radio réveil aujourd'hui ?
Pour écouter Europe 1 tous les matins, pourquoi
exactement.
Pas ?
Exactement. Vous le faites déjà, non ?
Oui, bien sûr, oui.
Évidemment. Évidemment. On continue notre petit tour de parc. Hein. Je crois que c'était dans un parc. Laetitia Farine, elle a promené son micro. Et voici ce qu'elle a trouvé.
Bonjour, je m'appelle Mélissa et j'ai 22 ans. Si je devais choisir un objet chez moi que je préfère, je pense que ce serait mon bureau. Il a été fait avec deux poteaux en chêne et au milieu, du coup, pour faire le bureau, mon papa a installé une tablette en bois noir. Donc c'est très joli. Et c'est confortable puisque du coup il a été fait sur mesure, donc à ma taille, vu que je suis pas très grande, donc parfait. Mais on a fait plein de trucs, hein. On a fait mon lit, on a fait ma coiffeuse, on a fait ma table de chevet, c'est moi qui dessine et c'est lui qui fait. Donc ça marche assez bien pour le moment, donc je suis assez fière de moi.
Il suffit d'avoir une bonne idée ou il faut avoir quand même la fibre inventeur pour créer des objets du quotidien ou en tout cas les réinventer. Qui a envie de répondre ? Chloé ?
Je pense surtout qu'il faut réussir.
Rapprochez-vous un tout petit peu du micro.
Je pense surtout qu'il faut réussir à répondre à un problème du quotidien. Et c'est là où les startups en général interviennent. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver une manière plus simple, plus rapide, plus sympa de répondre à des soucis du quotidien.
Vous, avec le miroir connecté, vous avez évidemment des tas de développements possibles. Hein, aujourd'hui, on s'en rend bien compte. C'était forcément aller chercher Google pour faire ce que vous faites aujourd'hui. Il y avait un moyen de faire complètement français ?
Alors, on n'a pas spécialement cherché Google. Là où on a eu beaucoup de chance, c'est que Google nous a sélectionnés pour montrer... À leur dernier événement annuel des développeurs de Google qui s'appelle Google I.O. pour montrer leur dernière...
Mais ma question, c'est est-ce que c'est possible de le faire avec des Français et pas forcément
Absolument.
Avec Google ?
Absolument. Mais en fait, justement, dans le cas de Google, c'était vraiment pour montrer une fonctionnalité de réalité augmentée qui fonctionne en Edge AI. Alors, c'est un petit peu technique, mais ça veut dire que justement, ce n'est pas de l'intelligence artificielle qui part dans le cloud et avec pas de contrôle des données. Là, justement, Google aussi cherche à rectifier un peu le tir. Et comme nous, on fonctionne entièrement en local avec des données stockées en local, ils ont trouvé pertinent de nous choisir pour montrer ça, et à notre plus grand bonheur.
Vous utilisez la poubelle et le boîtier connecté de Clément, non, il oui. me semble. on a un utilisateur.
On s'est rencontré au CES et depuis, je suis client de User et client satisfait. Donc, c'est un beau produit, en effet.
Oui. Vous aviez l'habitude de ne pas savoir où jeter ou...
Non, je pense que c'est pour avoir un bon réflexe. Donc, le produit permet d'avoir ce réflexe-là. Et puis, ça a un peu un côté gamification. C'est comme un petit jeu, on gagne des points. Donc, c'est pour moi une bonne solution à un problème de tri.
Sandra ?
Moi, quand j'écoute tout ça, j'ai une envie, c'est d'avoir un petit guide domestique qui me dit les bons gestes tout simples qu'on peut faire pour sauver la planète. Par exemple, les douches. Comment je fais pour dépenser moins d'eau ? La lumière, la chasse d'eau. Est-ce que je la tire à chaque fois ? Mon fils m'a dit qu'il faut la tirer le moins possible parce que c'est 20 litres d'eau à chaque fois. Donc, c'est vrai que si tout le monde avait, parce que ce n'est pas forcément connu de tous, comment vous pourriez faire pour avoir un outil intelligent qui nous permette à chaque pas qu'on fait dans la maison d'être citoyen et de sauver la planète.
En clair, est-ce qu'on pourrait finalement allier vos différents usages ?
Un bon exemple, c'est tout à l'heure, on parlait des opportunités de collaboration avec CareOS. Et c'est vrai que le tri dans la salle de bain, c'est quelque chose de particulièrement complexe, parce que les emballages sont complexes. Et on se disait, si le miroir intègre une caméra, pourquoi pas reconnaître les produits qu'on lui présente et le miroir vous indique dans quelle poubelle il faut le trier. Donc des synergies et des connexions entre nos différentes technologies, c'est quelque chose qui sont en effet pertinentes et souhaitables.
On a une question Twitter, Céline ?
Oui, de Marc, question pour nos invités, qui demande « Vos différentes innovations sont bourrées de nouvelles technologies, sont-elles accessibles à des personnes moins connectées comme les personnes âgées ?»
Ah, bonne question, qui veut répondre ?
Complètement, on peut innover aussi dans le design, c'est ce qu'on fait chez Maison Berger Paris. On a des produits qui sont faciles à utiliser. Là, on a sorti tout récemment un diffuseur de parfums électrique qui utilise des solutions prêtes à l'emploi de parfums, donc pas besoin de faire ces petits mélanges. On met le produit dans son salon, on a une petite zapette, et puis il va diffuser ça sans avoir à faire de mélange. Donc l'innovation peut aussi passer par le non connecté, ça peut être des innovations d'usage, comme cet exemple chez nous, Maison Berger Paris.
On a commencé dans la chambre, on va y retourner avec vous, Elisabeth. Vous nous avez trouvé
des matelas chauffants. Oui, ça se passe au Mans.
Français,
hein. C'était Antoine Vella qui a déposé son 11e brevet. Il s'agit d'un matelas de lit chauffant. D'abord pour le bien-être, aussi pour tuer les bactéries parfois présentes dans le matelas. C'était lui qui avait inventé la housse chauffante pour pneus de Formule 1. Donc il est resté un peu dans le même domaine. C'est un dispositif contrôlé par Bluetooth via une application. Vous avez aussi une jeune marque 100% française en drap et en oreiller qui s'appelle Le Petit Meunier. Elle a été fondée il y a 5 ans. Elle fabrique des oreillers, des couettes. En Bourgogne, ces produits ont été développés en partenariat avec le Centre du Sommeil de l'Hôtel Dieu à Paris. Puis vous avez toujours le drap français de linge, de lit éthique, tissé et confectionné dans les Vosges. Il ne faut pas les oublier.
Non, vous avez raison, ne les oublions pas. Merci à tous les trois d'être venus nous parler innovation à la maison sur Europe 1.
Il est 13h47.
Europe 1.
On reste ensemble. Elle existe, elle, depuis 1946. Ça a changé de nom, mais pas de leitmotiv. Ressources et ses peintures décoratives et l'entreprise qui va bien, c'est dans un instant.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Ah, et cette entreprise, eh bien, c'est Ressources. Bonjour, Pauline Chauvin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est vous qui êtes aujourd'hui PDG de cette marque qui est née, en fait, en 1946, si on remonte, c'est votre grand-père qui a créé à l'époque la Société Provençale des Ocres et des Blancs Fixes. L'idée, c'était justement d'exploiter les carrières d'ocre de Roussillon.
Tout à fait. Ça a même commencé avec mon arrière-grand-père. Donc, on est la 4e génération. Et donc, il a commencé à exploiter, en effet, les ocres dans les carrières. Et ensuite, mon grand-père est arrivé, donc André Chauvin. Et là, il a joué un rôle assez important donc, pour l'entreprise, parce que les ocres ont connu le marché des ocres à chuter avec les Américains qui ont créé donc, des pigments de synthèse. Et donc, ils ont basculé vers la fabrication de peinture.
On est dans le sud et on travaille là-bas des pigments naturels pour le coup.
Tout à fait.
essentiellement à l'époque. Il faut s'imaginer quand même, à l'époque, on fonctionne avec, avec des poêles à bois, les peintures se salissent beaucoup, elles se couvrent de suie notamment. Et là, votre famille va inventer un produit qui permet de venir recouvrir cette suie. Voilà. C'est révolutionnaire.
Exactement, et c'est comme ça que l'entreprise a connu un franc succès, avec le Corsimat, qui était donc la peinture isolante qui permettait de recouvrir toutes ces taches de suie.
À l'époque, on est déjà en famille, on est déjà du côté d'Avignon.
Tout à fait.
Et puis, les choses vont changer. Entre-temps, l'entreprise change de nom aussi, elle devient Blanc Color. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous avez gardé quoi ? L'esprit ressource ?
L'esprit, les valeurs de l'entreprise, le savoir-faire artisanale, la production française, tout ça, on l'a conservé. Et quand mon père est arrivé dans l'entreprise, donc il a pris la direction de l'entreprise en 92, il a créé ensuite en 98 Ressources.
C'est lui qui donne le nom.
Voilà, exactement, avec Patrice Doramel, qui était l'ancien directeur artistique de Ressources.
Vous avez toujours un laboratoire.
Oui.
L'idée, c'est vraiment de garder les couleurs du passé. Vous êtes une sorte de musée, finalement.
Oui. On a plus environ 1000 couleurs, donc ce qui est très large. On a environ une vingtaine de collections et toutes ont été créées donc avec des designers, des architectes décorateurs, des stylistes différents qui nous ont fait plonger dans leur univers décoratif. Et c'est, toutes ces collections vont de l'Antiquité à une période beaucoup plus moderne. Aujourd'hui.
Vous avez aussi un catalogue historique.
Tout à fait, qui a été créé avec Patrick Betty. C'est vraiment le socle de la gamme de couleurs ressources.
Je peux retrouver exactement la couleur qui se faisait en 1902 dans telle région.
Tout à fait. Alors, telle région, pas tout à fait, mais en tout cas, les années 70, 50, 60, toutes les couleurs historiques. Et donc, Patrick Betty, qui était britannique, a été nommé notamment par la couronne anglaise comme spécialiste de la couleur. Et c'est comme ça qu'on a construit toutes ces gammes-là.
Votre père, donc, crée Ressources en 98. Il décide, lui, et c'est ça aussi le gros changement, de cibler le secteur des particuliers en haut de gamme. Et puis, petit à petit, les ouvertures de magasins vont s'enchaîner. Combien aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a 9 boutiques en France. On a à peu près 150 revendeurs à travers de la France. Et on a aussi une boutique à New York qui a ouvert l'an dernier.
Que dit notre coach de l'aventure ressource ?
Elle dit déjà bravo, parce que vous faites partie des entreprises françaises qui ont su garder ce savoir-faire et patrimoine. D'ailleurs, vous êtes labellisé, vous ne le dites pas, mais EPV,
Entreprise du patrimoine vivant.
Et ça, c'est une belle preuve, et on a des belles pépites en France qu'il faut garder. Moi, j'ai une question de curiosité. Quelle est la couleur préférée des Français ? Moi, je suis une fan du Sarah Blue, du bleu de Sarah Lavoine. Voilà, mais quelle est la couleur préférée, si vous avez les top 3 des couleurs préférées des Français ?
Le bleu de Sarah Lavoine vient forcément dans le top 3.
D'accord.
Après, on a quand même les neutres aussi qui ont une place très importante.
Quoi, le beige, le...
Oui, le blanc légèrement cassé, comme d'accord. Le Not Totally White ou le Pop 01 des années 60. Et ensuite, on a beaucoup les verts forêts qui fonctionnent très, très bien.
Vous avez lancé une gamme de papier peint, ça c'est nouveau.
En 2016.
C'est assez récent. Vous essayez d'élargir justement cette gamme avec toujours la même idée en tête ?
Tout à fait. Donc, on s'est lancé en 2016. Donc, c'est ma cousine qui est aujourd'hui directrice artistique aussi de Ressources, qui a créé tous les motifs de la première collection. Et nous préparons l'arrivée de la deuxième collection pour début octobre.
Votre objectif aujourd'hui, Pauline, c'est quoi ? C'est continuer à transmettre en famille ?
Tout à fait. Continuer donc cette merveilleuse aventure familiale qui se perpétue depuis 4 générations. Et c'est vraiment continuer à associer la créativité avec la performance technique, avec des produits de qualité et aussi en respectant l'environnement. Qui pour nous, ça c'est vraiment une chose importante aussi.
Respect de l'environnement, effectivement, et respect aussi de la tradition avec des couleurs qu'on travaille toujours à la main, en partie.
Voilà, où on applique les échantillons à la main, une production française et vraiment conserver ce savoir-faire.
C'est l'entreprise Ressources, c'est l'entreprise qui va bien. Merci Pauline Chauvin d'être venue nous en parler aujourd'hui. Merci à Sandra qui était avec nous, c'était sa première, on était ravis de vous accueillir.
Et je reviendrai avec plaisir.
Eh bien, les micros sont ouverts, vous revenez quand vous voulez. Elisabeth, Céline,
à demain
pour de nouvelles aventures.
C'était Raphaël Duchemin sur Europe 1. Dans un instant, Christophe Ondelat.